Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous avez la parole dès lors que vous imaginez avec nous la société de demain. On est bluffé un peu plus chaque jour, c'est vrai, par votre agilité, votre extraordinaire capacité à réinventer les choses. Et c'est encore plus évident en temps de crise pour accueillir ceux qui préparent la suite. À mes côtés aujourd'hui, Sophie et Chanella. Bonjour Sophie.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach, bien sûr, qui a passé la semaine à nos côtés, Riyad Boulanoir. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour Sophie et bonjour à tous.
Co-fondateur du compte Nickel, de la méthode Boula Noire, etc., etc., etc. Se lancer, et vous êtes d'accord avec moi, je suppose, Riyad, c'est prendre des risques.
Et
se lancer en période de crise, c'est encore plus étonnant. Et pourtant, vous allez voir que certains n'hésitent pas. Bonjour Stanislas Verjulis-Franc.
Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Comover. Votre start-up est dédiée aux entrepreneurs pour accompagner leur transformation digitale vers le no-code. C'est technique, mais vous allez nous expliquer pourquoi c'est le bon moment d'y penser. Le projet est lancé depuis peu, le 13 mai officiellement. Je compte sur vous pour nous parler comme si nous avions 5 ans. Vous avez 1 minute 30. C'est parti.
Merci beaucoup. Alors Comover, c'est un service de conseil et d'accompagnement qui permet aux entrepreneuses, aux entrepreneurs, aux entreprises d'offrir à leur projet la présence digitale qu'ils méritent en utilisant ces technologies et ces outils no-code. Alors pour expliquer ce que c'est que le no-code et pour tenter de perdre personne, le no-code c'est un ensemble d'outils en ligne qui vous permettent de faire des sites web, des applications, des projets digitaux sans jamais écrire une seule ligne de code. Et c'est ce qui permet vraiment à toutes et à tous de pouvoir les utiliser, de pouvoir construire quelque chose. Concrètement, si on prend un outil que j'adore qui s'appelle GlideApp, cet outil il vous permet de transformer une feuille Google Sheet, donc l'équivalent d'un tableur Excel, en application mobile. Vous avez uniquement qu'à remplir le texte dans votre Google Sheet et l'outil va automatiquement le transformer en application mobile et c'est hyper visuel et intuitif et ça permet à tout le monde vraiment de pouvoir prendre en main et de pouvoir lancer rapidement n'importe quoi sur Internet. Et aujourd'hui avec Comover, on permet à des startups, des entreprises de se lancer rapidement sur Internet en développant leur site web, leur prototype, leur application, leur stratégie digitale, tout en étant autonome grâce aux outils no-code. Si je prends un exemple, on a travaillé avec une galerie qui s'appelle la galerie Patrick Fourtin et on a développé une application mobile en 4 jours. C'était une innovation pour lui parce qu'il a pu offrir une nouvelle approche à ses clients par le biais de l'application et surtout il a pu devenir autonome et prendre en main un outil. Je pense qu'il n'aurait jamais pu penser prendre en main de par la simplicité des outils no-code. Et avec Comover, on fait aussi pas mal de formations auprès d'écoles comme le CV Digital ou l'ICAR où on forme des étudiants au no-code parce que pour nous le no-code c'est on a aussi une mission un peu d'évangélisation du no-code, on essaie de le mettre entre les mains de tout le monde parce que de par sa simplicité et de par son utilisation et la création qu'on peut amener avec tous les outils no-code, c'est un accès aux nouvelles technologies énorme.
Et voilà, la minute 30 est écoulée. Merci Stanislas. On va se tourner tout de suite vers Riyad pour savoir ce qu'il pense de Comover.
C'est l'avenir. On voit bien que la digitalisation, elle intervient partout. Néanmoins, elle a encore un obstacle. Si demain, Raphaël, vous voulez faire une appli, vous allez être obligé d'aller voir des développeurs qui vont en fait transcrire votre besoin, l'idée que vous avez, plus ou moins fidèlement d'ailleurs pour le coup, en ce qu'on appelle du code, ce qui est l'algorithme en fait, qui est ce qu'on appelle les algorithmes, mais c'est le seul langage à peu près que la machine comprend. Et donc, le fait d'aller vers du no-code, c'est justement essayer de raccourcir et de vous donner la main à chaque moment du développement, en fait, de l'idée jusqu'à la réalisation, pour que vous puissiez finalement créer votre appli. Alors, on n'y est pas encore. Ça s'améliore de mieux en mieux. C'est pour ça qu'on fait des interfaces homme-machine. Je pense que l'avenir, c'est que la machine nous comprenne directement, quoi. Donc, qu'on évite cette étape-là de transcodage qui, généralement, en fait, remplit plus ou moins fidèlement les besoins initialement exprimés, quoi. C'est clairement l'avenir. C'est clairement l'avenir. Et je pense que redonner la main, ce qu'on appelle dans les entreprises au métier, sur leur développement informatique, c'est effectivement essentiel puisqu'on en a besoin en termes de réactivité en particulier.
Oui, l'idée c'est vraiment, Stanislas, d'aider les entreprises à lancer des projets digitaux vite, sans trop de frais et que finalement ça soit plus accessible à monsieur et madame tout le monde.
Exactement. Et en fait, ce qui est bien avec le no-code, c'est que on n'a plus besoin. Moi, je ne sais pas écrire une seule ligne de code, et pourtant, j'ai pu développer des sites web, des applications, etc. Et en fait, c'est vraiment le donner à tout le monde et donner le no-code, ça permet à tout le monde de pouvoir le faire. C'est vraiment une grande démocratie par rapport à ça, sans forcément avoir besoin de connaissances techniques. Et il y a beaucoup d'outils qui se prennent en main. Ça demande quand même de la formation, parce que c'est des outils, mais la formation est beaucoup plus rapide que d'apprendre du code, et surtout la mise en place de sites web et d'applications est bien plus rapide et bien moins coûteuse. Pour mettre en place énormément de projets digitaux. Donc c'est vraiment cette démocratie en fait qui est hyper intéressante avec le no-code.
Sophie,
alors justement, comment vous financez? Qu'est-ce que c'est votre modèle économique exactement?
Aujourd'hui, je travaille du coup avec des entreprises, des entrepreneurs. On fonctionne sous forme de devis. J'ai pas encore de package qui inclut tel type de prestations. Et on compte toujours le temps humain sur le projet. Et c'est et de la formation et à côté de ça du conseil, de l'accompagnement pour les entreprises.
Qu'est-ce qu'on peut dire, Riyad, justement sur le modèle à Stanislas pour que peut-être les choses se développent un peu plus vite.
Ben, c'est un modèle économique assez classique hein, d'un cabinet de conseil, de formation et éventuellement de développement.
Mais est-ce que c'est le bon choix ?
Bah, de toute façon, il n'y a pas trop de choix parce que là, on est quand même en phase d'évangélisation. Donc, il faut prendre les gens par la main. On ne peut pas tellement encore complètement automatiser cette partie-là. Il va falloir convaincre les gens de passer de mode dans lequel on avait des grosses équipes informatiques de développement auxquelles on donnait des spécifications qui les réalisaient dans un certain temps finalement le besoin va tout de suite s'exprimer et en avoir la conséquence sur les outils digitaux de l'entreprise. Donc il y a quand même une grosse part d'évangélisation, c'est pour ça qu'ils font de la formation, c'est pour ça qu'ils font aussi un peu de développement. Je vois pas trop de package facile à mettre en place.
Il n'y a pas de formule miracle en tout cas.
Non, je pense que c'est un accompagnement qui va dépendre des entreprises et de leur niveau de maturité également.
Stanislas, moi j'ai une question, ça veut dire quoi Comover ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ?
Comover, en fait, c'est la contraction de communication mobile verticale, donc COMOVERT, et ça m'est venu comme ça parce que je devais trouver un nom, et c'est la question de la verticalité de la communication, de la mobilité avec le no-code, et du coup de la communication avec toute la question de la stratégie digitale.
Alors votre ambition, je crois, c'est de pouvoir embaucher des collaborateurs. Comment est-ce que vous allez vous y prendre, justement, pour évangéliser, comme vous dites ?
Bah, pour le coup, pour l'évangélisation, j'essaye d'écrire de plus en plus, de pouvoir mettre des mots en fait sur ces technologies pour essayer d'amener ça à tout le monde. Je suis en cours de rédaction d'un livre blanc aussi, du premier livre blanc, si je ne dis pas de bêtises, francophone sur la question de no-code pour essayer d'amener ça entre les mains de tout le monde. Et après, c'est vraiment de la discussion, écrire, en parler, toucher le plus de monde possible. Et après, pour embaucher, il faut du financement, donc il faut que j'arrive à avoir plus de clients. Et en fait, plus je vais évangéliser, plus j'aurai sûrement de clients, et donc peut-être un jour je pourrais embaucher quelqu'un.
Et finalement, c'était la bonne période, se lancer officiellement le 13 mai, parce que vous y travaillez depuis 2018, hein, ce projet. Mais là, peut-être que les gens étaient obligés de se tourner vers le digital, donc vous avez peut-être eu davantage d'opportunités de convaincre.
C'est possible. Après, je sais, vrai, c'est toujours la question de les gens doivent se tourner vers le digital, mais ils n'ont pas forcément non plus les finances qui vont avec, en fait. Et en allant démarcher des entreprises qui étaient intéressées, qui aujourd'hui n'avaient pas forcément les fonds pour ce type de projet. Et je dirais que le no-code, aujourd'hui, on arrive sur une vague où c'est en train de prendre de l'importance. En France, on commence à avoir des acteurs, des entreprises et des personnes qui commencent à s'y intéresser. Ça va beaucoup augmenter dans les 6 mois. Mais je pense que s'investir sur le digital.
Il faut aller voir les start-up, Stanislas. À mon avis, il faut aller voir les start-up. Ça sera beaucoup plus simple à convaincre.
Ça va aussi.
Ça sera beaucoup plus simple à convaincre les entreprises. Tu vas t'opposer aux directions déjà existantes, etc. Bon, on va te dire oui, mais ça marche bien comme ça. Pourquoi voulez-vous qu'on change, etc. Intéresse-toi plus aux startups. Elles sont plus dans ta culture de business, quoi.
Et plus d'agilité aussi, peut-être, à opérer le changement, Riyad.
Oui, puis ils commencent par ça. Les startups n'ont pas d'historique hein, par rapport aux sociétés traditionnelles. Hein. Elles n'ont pas d'historique, donc c'est un peu plus facile. Elles commencent de la page blanche. Donc c'est facile de commencer avec des nouvelles solutions. Quoi.
Ah oui, pas de réticence au changement du coup. Merci beaucoup Stanislas pour Comover, start-up donc, qu'on soutient évidemment. Et vous nous donnerez de vos nouvelles pour savoir où on est le développement dans les mois qui viennent sur Europe 1, 13h16.
Europe 1.
Et si on consultait la carte d'un restaurant directement sur notre smartphone, c'est possible. La solution, c'est Digital Res Translate. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h18 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous avec la solution. Et la solution d'aujourd'hui, Sophie Echen, c'est la web application Res Translate qui va aider en fait les restaurants à s'adapter face à la crise lors de leur réouverture.
Oui, c'est ça. Res Translate, c'est la contraction de restaurant et translate pour traduire en anglais. En fait, c'est un service qui a été créé en Bretagne il y a un peu plus de 2 ans. À l'origine, c'est une application vouée à aider le tourisme en France car elle permet à la clientèle étrangère des restaurants d'accéder au menu dans leur langue. C'est tout simple, grâce à un QR code, vous accédez directement au menu, traduit automatiquement dans 12 langues. Fini donc les mauvaises surprises dans l'assiette, simplement parce que vous n'aviez pas compris ce que vous aviez commandé. Alors évidemment, le Covid est arrivé, alors Res Translate a mis en pause sa principale activité de traduction. et a développé la solution pour ne pas toucher les menus dans les restaurants et donc limiter la circulation du virus. Le principe reste le même, un QR code à flasher ou un lien internet à taper pour avoir instantanément la carte sous les yeux avec des photos des plats et leur prix. Une solution écologique aussi puisqu'elle évite de devoir imprimer des grandes quantités de menus à usage unique. Et cette solution, c'est vous qui l'avez développée, Benjamin Brochard. Bonjour et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
Bonjour,
merci
Benjamin.
Vous avez 25 ans et vous êtes originaire de la région de Vitré, en Bretagne. Et vous, vous avez complètement adapté votre concept à la crise sanitaire.
C'est ça. Donc, pour un petit mot sur moi, donc je suis un fils d'agriculteur et le troisième de notre fratrie.
Oui.
Donc, je suis issu de l'enseignement public français et européen. Donc, j'ai suivi mes études à l'Université de Rennes et à l'Institut européen de technologie. Donc, comment on a adapté nos services pour nos clients? Donc, tout simplement... pour vous remettre dans le contexte, fin février, il y avait le Mobile World Congress, qui est un événement incontournable de la tech dans le monde. Et Google et Facebook annoncent ne pas participer à ces événements pour préserver la santé de leurs salariés. Donc, un petit peu à l'image des espèces qui sentent les vibrations d'un tsunami avant la vague, on a pris rapidement de la hauteur pour développer une fonctionnalité sur notre solution et permettre aux clients de nos établissements de consulter la carte en limitant le risque de contamination du fait de toucher avec leurs mains les cartes et menus des restaurants et également la possibilité de commander en ligne.
Oui, c'est ça. Et alors, comment ça fonctionne exactement? Imaginons que je suis restauratrice, qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier de ce service?
Alors, c'est très simple. Il suffit de nous contacter soit sur notre site internet ou soit par mail. Il faut nous envoyer votre carte afin qu'on puisse établir un devis, puisque le coût peut sensiblement évoluer selon le volume de plats et de vins à intégrer sur le menu digital. Mais dans le tarif moyen, il y a environ de 450 euros pour bénéficier de cette solution. Et il faut penser aussi également à récupérer les photos de vos plats.
Et alors justement, depuis la crise, vous avez élargi votre clientèle ?
Alors, on connaît une véritable accélération. À l'heure actuelle, Restaurant Slate s'est installé dans plus de 50 établissements partout en France. Sur Saint-Malo, tout d'abord, puisque je viens de là-bas.
Oui.
Par exemple, au Lion d'Or, le Café César aux Champs-Élysées, le Miramar à Marseille. On a des petits établissements traditionnels. On a des restaurants plus renommés. Aujourd'hui, on croit au rythme, quoi, du moins sur les deux dernières semaines, juste avant la date de réouverture du 2 juin pour les établissements de zone verte, on est au rythme de 10 clients par semaine. Et pour nous aider à accompagner dans cette vitesse de commercialisation, on fait appel à des personnes indépendantes de manière à conserver ce rythme et cette capacité d'intégration des établissements avec la demande que l'on nous fait.
Agilité encore, hein, Riyad Boulanoir.
Ben oui, là on est sur la même tendance. Hein. D'ailleurs, on a eu des solutions à peu près comme ça durant cette semaine sur la digitalisation des commerces de proximité. C'est vrai qu'il faut rappeler que les commerces de proximité ont été les derniers à rejoindre le digital. Hein. On a eu souvent la caisse enregistreuse, éventuellement le code-barre, et puis ça n'allait pas très loin derrière. Donc là, ben, les exigences et les contraintes sanitaires font qu'elles doivent se digitaliser. J'ai regardé leur solution là. Oui, non, c'est très bien fait. Néanmoins, le passage en digital pour des commerces de proximité qui ont l'habitude de présenter des assiettes, etc. Il faut pas non plus négliger qu'il y a un aspect effectivement photo, mise en scène, et que si le menu il paraît pas joli à distance, eh ben on n'aura pas envie d'y aller. Donc ça c'est quelque chose qui est une des contraintes de la digitalisation. Bon, sinon sur la solution, ben j'ai rien à dire. Par contre, qu'il y a du monde, hein, preuve en est, on en a eu dans la semaine. Moi, je me méfierais des Google et des Apple qui ont tout à fait la capacité de faire ça et d'intégrer comme ils l'intègrent aujourd'hui dans Map. Je pense que ça va se concentrer à un moment. La bonne chose là aujourd'hui, c'est que c'est une web app, c'est-à-dire que c'est juste un flashcode qu'on scanne. Donc c'est pas une appli qu'on doit installer, une énième appli. Donc je pense qu'il va y avoir encore un peu de place, mais il va falloir faire attention. Je pense que ça va se concentrer tout ça.
Alors comment vous faites justement pour Benjamin vous prémunir de ce qui pourrait se passer, parce que c'est vrai que le marché est déjà très occupé. Hein.
Ah oui, et c'est normal hein, étant donné la situation actuelle.
Alors,
on a forcément un plan de développement qui est déjà défini pour répondre aux attentes de nos clients. Après, on va pas faire de l'innovation pour essayer d'envoyer des fusées et de les recycler. c'est vraiment, on va chercher à ajouter des choses que si nos clients en ont besoin. Aujourd'hui, on est sur un système de tarification qui est très simple, qui fonctionne à l'année et sans tacite reconduction pour les établissements qui travaillent.
C'est 450 euros à l'année. C'est
oui.
450 euros à l'année, d'accord, ok, parce que vous n'aviez pas précisé.
Exactement.
D'accord, ok.
Et le but de ce système de commande à emporter au travers de notre solution également, c'est qu'on le propose sans commission. Donc c'est un des éléments différenciants avec la non-tacite reconduction qui font qu'aujourd'hui les établissements vont vers nous, du moins à l'heure actuelle, puisqu'on ça reste dans notre ADN et dans ma volonté de rester une société indépendante comme la plupart de mes établissements. Donc voilà, aujourd'hui on est financé en fonds propres, on a des dépenses qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires généré puisqu'on travaille avec des collaborateurs indépendants. Forcément, il y aura de la concurrence et de la très belle concurrence. Mais
on sent le breton indépendant qui sommeille en vous, hein, Benjamin.
Non, oui, c'est aussi un message que je souhaite faire passer à nos auditeurs, plutôt en tant que citoyen. Il y a beaucoup d'établissements qui sont en difficulté, qui ont perdu une très grosse partie de leur chiffre d'affaires. Donc, en tant que citoyen, va falloir aller soutenir nos commerces.
Pour ceux
qui font du emporter, c'est déjà possible. Mais pour ceux qui vont réouvrir, va falloir.
Vous avez raison.
Puisque c'est possible que 15 à 20% des établissements mettent la clé sous la porte cette année. Donc, c'est pour faire prendre conscience de la gravité de la situation économique. Ce ne sont pas les seuls secteurs touchés, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup d'emplois.
Sophie Echette, vous avez une question pour Benjamin.
Benjamin, justement, vous, il vous faut combien de clients pour être rentable? Comment vous êtes rentable, justement, avec tout ça?
Alors, comment on est rentable? Comme je le disais, on a des coûts qui sont proportionnels au chiffre d'affaires généré. Donc à partir du moment où est-ce qu'on va dépasser la barre des 100 clients, les deux prochains mois, mais à la vitesse actuelle, c'est bien parti pour. Ce qui va faire évoluer notre rentabilité, ça va être notre capacité à gérer nos frais. Nos frais qui sont représentés par l'intervention de ces collaborateurs extérieurs. Et eux n'interviennent que lorsqu'un client, un établissement souhaite travailler avec moi. Donc je suis sécurisé en termes de bénéfices, puisque ceci évolue proportionnellement.
Ça s'appelle donc Translate, restaurant et traduction, Translate. Évidemment, la contraction des deux mots. Merci Benjamin d'avoir été avec nous pour nous présenter cette solution.
Super.
Très
intéressant.
Vous êtes en week-end en France, à 100 km de chez vous. Le tourisme local peut-il sauver la saison? Réponse avec nos invités. Ce sera le dossier du jour. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h29 sur Europe 1, après deux mois de confinement, on a tous envie de voyage, d'évasion, de liberté, de détente. On pense tous horizon lointain, farniente, sauf qu'avec l'épidémie de coronavirus, il nous sera cet été probablement impossible de faire de longs trajets et de passer les frontières. Alors le secteur du tourisme a imaginé d'autres solutions pour nous aider à prendre la poudre d'escampette. Bonjour Bertil Burel.
Bonjour Raphaël.
On est ravis de vous retrouver. Bertil, vous êtes la cofondatrice de Wonderbox. On vous connaît bien ici dans la France Bouge, hein, puisque vous êtes l'une de nos coachs. Vous avez, vous, lancé pendant le confinement les box J'aime la France. Votre idée, justement, soutenir les partenaires, vos partenaires, les acteurs du tourisme?
Tout à fait. En fait, on s'est aperçu que tout le monde souffrait énormément et que malheureusement, tous nos partenaires étaient fermés. Et du coup, on s'est dit de quoi ils ont besoin aujourd'hui. C'est d'avoir des clients qui leur apportent un maximum d'argent. Et du coup, on a lancé trois coffrets qui s'appellent J'aime la France et qui vous permettent d'aller en France n'importe où, et de soit faire des expériences de loisirs, soit loger, donc chambre d'hôte, hôtel, soit faire des massages, des restaurants. Et nous reversons l'intégralité de la valeur du coffret à nos partenaires.
Oui, c'est ça, vous ne prenez aucune commission, tout est directement reversé au gîte, à l'hôtel, au restaurant.
Exactement. On prend aucune commission et on va vendre ces coffrets sur notre site internet et en exclusivité à la FNAC. Et l'idée, c'est vraiment d'aider nos partenaires et n'importe quel prestataire touristique qui voudrait s'inscrire à l'opération pour les aider à repartir rapidement et à renflouer leurs caisses le plus vite possible.
Oui, ça veut dire que c'est ouvert, hein, c'est-à-dire que des hôteliers qui vous entendent aujourd'hui peuvent vous contacter pour vous dire « moi je suis intéressé, je voudrais participer à l'opération ».
Tout à fait. C'est ouvert à tout prestataire de touristique. Donc ça peut être un parc d'attractions, une chambre d'hôte, un restaurant. Et on fera notre sélection qualité, mais c'est ouvert à tout le monde. Alors ça commence avec nos partenaires historiques, puisqu'il y en a, ça fait déjà 15 ans qu'ils travaillent avec nous. Mais l'approche vraiment de ces coffrets, c'est de soutenir le tourisme en France et d'aider tous ceux qui en ont besoin. Oui. Et en fait, je crois que tout le secteur en a besoin.
Ouais, justement, Sophie Echen, c'est vrai que la crise sanitaire qui est inédite hein, a provoqué un véritable bouleversement dans ce secteur du tourisme.
Oui, absolument. Du côté des restaurants, des bars, des cafés, déjà, il y en a 155 000 dans tout le pays. On en parlait tout à l'heure avec Benjamin. 20% d'entre eux vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Les autres estiment une perte de 60 à 80% de leur chiffre d'affaires. Et du côté de l'hôtelier et de l'hébergement, c'est pas beaucoup mieux puisque selon le baromètre de l'activité touristique, près de 70% des professionnels connaissent une forte baisse des réservations. Donc l'objectif hein, pour tenter de limiter la casse, effectivement, ça va être de proposer peut-être des destinations, des hébergements plus inhabituel, privilégier la proximité. Et là, on le voit, les acteurs du tourisme débordent d'initiatives, Raphaël.
Dites-moi, Bertil, est-ce que cette crise vous a, vous, chez Wonderbox, obligé à réorganiser les choses, à repenser finalement ce qu'est le concept de voyage ?
Alors oui, évidemment, on a toute une gamme de coffrets qui étaient à destination européenne. Et du coup, tout ça, je pense, aujourd'hui, on peut pas sortir de France. Je pense que c'est une opportunité aussi pour cet été, parce que du coup, les Français vont rester en France, et on le voit sur notre site. Alors, on vend très peu et encore, mais il y a une explosion des ventes de sauts en parachute. En fait, tout à l'heure, en introduction, vous disiez. Les gens ont envie d'évasion et de liberté. Et je pense qu'il y a vraiment un sentiment de je vais réaliser mes rêves cet été. Et du coup, je pense que les Français vont faire énormément d'activités de loisirs. Et j'imagine qu'à l'image de l'explosion des ventes de sauts en parachute, il y aura plein de gens qui vont faire des descentes en rafting.
J'entends Criade réagit dans mon casque, effectivement. Il a peut-être envie de faire du son barjute, ou l'on a peut-être déjà fait d'ailleurs.
Je t'avouerai que pour l'instant, j'ai l'impression que les deux mois qu'on vient de vivre, c'était un début de saut en parachute. Donc, il faudrait juste que ça ralentisse un petit peu et qu'on se repose bien sur terre. Moi, je voudrais quand même féliciter Wonderbox, enfin, et toutes les initiatives. Il y a quand même beaucoup de solidarité qui est mise en avant. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont mises en avant, bien avant la profitabilité ou la rentabilité. Et je pense que ça se salue et ça fait du bien. Je vais vous le dire, Raphaël, ça fait vraiment du bien. Quoi.
Vous restez avec nous, Bertil. On va rejoindre Pierre Bonelli, qui est fondateur de Cozy Cozy, COZY, deux fois tout attaché. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez aussi fondé Liligo, mais là, vous avez choisi non pas d'aider les Français à voyager dans le monde, mais à trouver un lieu de villégiature dans l'Hexagone et vous avez lancé À la recherche de vacances en France. Racontez-moi, ça marche comment ?
Alors, vous savez, jusqu'à présent, les gens, lorsqu'ils pensent vacances, ils pensaient surtout partir très loin. Alors, ils pensaient aussi partir en France, mais la France est plus, jusqu'à présent, disons, une terre d'accueil pour des touristes étrangers. Et il y a à peu près 9 millions de Français qui, cette année, comptaient partir à l'étranger. Et ces 9 millions de Français ont décidé cette année, n'ont pas trop le choix finalement, de rester en France et de partir en France. Et donc dans ce contexte, on s'est dit il faut qu'on revoie complètement notre copie et qu'on offre un nouveau service permettant aux Français de redécouvrir la France et ce qu'elle propose.
Alors à quoi ressemble ce nouveau service ?
Donc on a repensé. Comment ?
À quoi ressemble ce nouveau service ?
Alors jusqu'à présent, lorsque vous lanciez une recherche sur un... Donc on est en fait Cozy Cozy, c'est un Google de l'hébergement.
Oui.
Donc c'est un site qui permet de trouver l'ensemble de l'offre d'hébergement, que ce soit les hôtels, les locations de vacances, les gîtes, les campings, les bateaux à louer, etc. Et donc jusqu'à présent, il fallait que vous rentriez une destination Par exemple, vous voulez partir, je sais pas, à côté de Nice, alors vous rentriez à Nice et puis on vous proposait l'ensemble des possibilités. Ou vous partiez très loin, en Italie, en Espagne, à l'autre bout du monde. Voilà. Par contre, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils savent pas très bien à quelle distance de chez eux ils vont pouvoir partir. Ils savent pas très bien où ils veulent partir parce que ils ont, disons, plutôt envie d'activité ou d'expérience, on va dire.
De déconfinement en douceur aussi.
On va permettre aux gens de chercher.
Peut-être, j'ai l'impression de déconfinement en douceur, parce que vous êtes aperçu que c'est surtout des maisons individuelles qui progressent dans les recherches et qu'il y a de nouvelles destinations qui apparaissent. Je pense à l'Ardèche qui est beaucoup plus recherchée qu'avant. Je crois que ça a été multiplié par 6, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc en fait, les gens recherchent donc une destination qui leur permette d'être quand même assez isolés. Donc je pense que les gens n'ont pas tellement envie de se retrouver sur des plages les uns à côté des autres. Donc effectivement, les destinations qui ont l'air de fonctionner et qui sont beaucoup recherchées, c'est des destinations auxquelles... Alors il y a l'Ardèche qui est, que je connais bien par ailleurs, et qui est une très belle région. Et donc voilà, il y a beaucoup de recherches sur l'Ardèche. Et aussi ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur les gîtes, par exemple. Donc les recherches sur les gîtes ont bondi, sont multipliées par deux.
Ouais, on délaisse un petit peu l'hôtellerie classique finalement.
Les hôtels. Voilà. Donc je pense que les gens, ils craignent le fait de se retrouver dans des hôtels. Alors c'est pas forcément bien ce que je dis pour les hôteliers, donc c'est pas ce qu'il faut les soutenir aussi,
non,
évidemment.
C'est une réalité de ce que vous constatez sur le site en tout cas.
C'est ça. Voilà. En tant que moteur de recherche, on voit l'ensemble des requêtes et on voit les tendances, évidemment.
Riyad ?
C'est ça qui est intéressant.
Ah ben moi je suis content que les Français redécouvrent leur pays. Je pense qu'ils l'ont pas ils l'ont pas découvert aussi pour des questions de budget, hein. C'est vrai que aussi les vacances en France, quand vous êtes quatre, c'est pas toujours le même prix que le all inclusive dans un pays asiatique ou un pays du Maghreb. Donc il y avait aussi des contraintes de budget. Beaucoup de gens me disaient bah oui, je partirais bien en France, mais ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher. Là, le fait qu'ils le redécouvrent, moi j'adore la France. En plus, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, Raphaël, mais j'ai un camping-car, donc oui. J'ai fait toutes les zones, aussi bien la Bretagne que l'Ouest, que l'Ardèche, et il y a des zones vraiment magnifiques. J'ai fait par ailleurs 36 pays. Franchement, la France, c'est un pays qui a tellement de diversité. Il est bordé par trois mers. C'est vraiment une aubaine, finalement. Et c'est vrai que les citadins, même si les citadins, ils ont été punis pendant ce confinement, parce que eux, avec leurs conditions de logement, ils vont pas être déçus. C'est sûr, je pense que ça va changer durablement les mentalités, quoi.
Oui, et puis je précise que vous avez aussi, Pierre Bonelli, mis en place un partenariat avec Patrimoine 2.0 et vous soutenez le hashtag cet été, je visite la France. Merci Bertil Burel, merci Pierre Bonelli d'avoir été avec nous sur Europe 1, 13h38.
Europe 1.
Restez avec nous, on va partir, mais où et comment ? Ça, c'est vrai que vous êtes nombreux à vous poser la question. La France Bouge vous donne les clés pour vous aider à voyager pas loin et à vous dépayser.
Europe 1, la France Bouge. Raphaël Duchemin.
Il est 13h40, le tourisme est un des poumons de notre économie. La France est la première destination. Et si l'on vient de Rio, de Bali ou de New York pour visiter l'Hexagone, c'est parce que nous avons, eh oui, un patrimoine, des paysages, une richesse qu'il faut réapprendre à découvrir. On peut le faire sans aller bien loin, hein, tout en étant dépaysé. Bonjour Nicolas Sartorius.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous êtes le fondateur d'Abracadaroom. Vous avez mis en place une plateforme d'hébergement insolite avec une recherche spécifique. Moins de 100 km. C'est vrai que c'est important en ce moment.
C'est ça, exactement. Bah voilà, on a des consignes aujourd'hui. Les touristes ont des consignes. C'est de ne voyager pas plus loin que 100 km. Donc on a mis en place cette fonctionnalité justement pour permettre aux clients, aux internautes, de faire une recherche et d'avoir tous les hébergements insolites et dépaysants à moins de 100 km de leur domicile.
Alors, vous faites la démonstration finalement qu'on peut voyager sans aller loin de chez soi. Comment est-ce que vous avez sélectionné les lieux que vous proposez ?
Alors les lieux, on les sélectionne, on a créé une définition un petit peu de l'hébergement insolite, parce que c'est un terme qui n'est aujourd'hui pas encadré.
Alors
et
c'est
qui
quoi
permet,
l'hébergement insolite ?
Alors l'hébergement insolite, c'est bon déjà ça peut être défini par la typologie d'hébergement, hein, on en connaît, les cabanes dans les arbres, les yourtes, les roulottes,
oui.
Mais la dimension aussi de l'environnement est importante, c'est très important d'avoir un bel environnement, une yourte dans un lotissement n'a pas forcément d'intérêt, ne nous intéresse pas. Par contre, voilà, l'environnement nature, dépaysant, et puis aussi bon, il y a la qualité activités des hôtes, et puis il y a aussi des activités qui sont proposées sur place. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que on sélectionne un domaine ou un camping ou voilà d'autres structures qui proposent ce type d'hébergement et cette dimension expérientielle.
Ouais, vous avez aujourd'hui 1300 hébergements recensés, c'est ça ?
C'est ça, on a 1300 hébergements recensés sur toute la France, avec ça représente environ 400 destinations, donc une destination qui sont voilà, c'est réparti sur tout le territoire français.
Cette rubrique, elle a vocation à rester une fois que l'épidémie sera derrière nous. C'est une recherche que vous allez garder finalement, le moins de 100 km sur votre site.
Alors oui, on a créé des pages de résultats voilà, à moins de 100 km des grandes villes. Donc ça, c'est des pages, bien entendu, qu'on gardera. Et puis on va peut-être ouvrir un peu plus le rayon de cette recherche une fois qu'on sera sorti, pour garder à moins de 2 heures des destinations voilà, des grandes villes.
Ouais, c'est vrai que le loisir de proximité, c'est peut-être l'avenir finalement du tourisme en France, Sophie.
Oui, la pratique d'un tourisme plus local, plus responsable aussi, et qui permet de redécouvrir son territoire, de réinventer son rapport à la proximité. Et j'ai envie de vous parler de la start-up Woom.fr, c'est le leader français de la réservation de loisirs. Elle représente déjà plus de 3000 professionnels du secteur. Alors en fonction de votre lieu de vie, vous avez accès à tout un large choix. Il y en a pour tous les goûts, pour les amateurs de sensations fortes, on en parlait tout à l'heure avec le saut en parachute, mais aussi de calme et de bien-être, d'insolites et bien sûr des activités adaptées aux familles. L'objectif, c'est bien sûr de prouver qu'on peut tout à fait être touriste chez soi, à quelques kilomètres seulement de son domicile.
Riyad Boulanoir, notre coach.
Ben, moi j'aime bien ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de voir un peu la diversité, comment les gens, il y en a ils vont être camping, il y en a ils vont être cosy, il y en a ils veulent un coffret spa, il y en a ils veulent être dans des cabanes. D'ailleurs, j'ai déjà fait dans les cabanes, je vous invite à le faire, c'est très amusant, c'est vraiment typique. Voilà, c'est intéressant de voir cette diversité. Je pense qu'il y a un vrai marché qui est en train de qui pivote effectivement les contraintes géographiques, on va réapprendre à découvrir notre pays à aller beaucoup moins loin, prendre un peu moins l'avion, en tout cas tout le temps que le traumatisme durera. Et donc c'est une très bonne occasion, et on voit qu'on a plein de diverses façons de le faire finalement, et je crois qu'il y en a pour tout le monde, quoi.
Alors vous restez avec nous, Nicolas, on va aller encore moins loin, tiens. Après tout, finalement, une partie du voyage se fait aussi dans notre tête, dans notre imaginaire. Bonjour Mathieu Dugast. Alors Mathieu Dugast, êtes-vous Bonjour. Avec nous ? Bonjour, je Merci crois que vous êtes un peu, il y a un petit décalage hein, manifestement avec vous. On va essayer de régler ça évidemment. Vous êtes un des fondateurs de Staycation. Bonjour. Vous poussez la proximité encore plus loin ou plus près si j'ose dire, car vous dites on peut tourner le coin de la rue et voyager. Donc vous proposez de passer 24 heures à côté de chez soi.
Exactement, ce qu'on propose avec Staycation depuis 3 ans, c'est finalement de s'évader de son quotidien. 24 heures, en passant 24 heures magiques et tout incluses dans un hôtel de luxe qui peut être dans sa ville, dans son quartier ou dans sa région, et tout ça à des prix super raisonnables. Donc à chaque fois, on va créer des expériences pour les urbains, pour les reconnecter finalement aux hôtels de leur ville.
L'envie de circuit court, elle était déjà là, de week-ends plus nombreux, plus près. Avec la pandémie, finalement, c'est encore plus une réalité.
Pour nous, effectivement, ça va être une réalité encore plus importante. Hein, c'est que les gens, maintenant, ont encore plus pris conscience du fait que la localisation, le circuit court, l'évasion locale va être de plus en plus dans les esprits. Et effectivement, pour nous et nos hôteliers partenaires, surtout, le local se confirme vraiment comme un nouveau marché et comme un vrai relais de croissance pour les hôtels.
Riyad Boulanoir.
Ouais, bah alors je vais vous dire que j'ai fait aussi, hein, parce que je fais assez régulièrement des hôtels dans Paris luxueux qui sont juste à côté de chez moi, juste pour une journée, juste pour prendre le temps. Et c'est vrai que finalement, ben l'important c'est de partir. Alors, je crois pas qu'on ait vraiment besoin de partir très loin. L'important c'est de partir, c'est de changer de cadre, changer d'air, et puis ça suffit, que ce soit finalement à quelques kilomètres ou à moins de 100 kilomètres, on a vraiment de quoi s'amuser et de quoi vraiment se divertir.
Oui, et on a vu, Sophie, que finalement les initiatives se multipliaient. Par exemple, vous avez trouvé un générateur d'idées de voyage pour trouver où partir en France pendant les vacances.
Oui, ça s'appelle explorelafrance.fr. Le site a vu le jour il y a une semaine. À l'origine, ce sont des professionnels du tourisme montpelliérain. C'est très simple. En quelques clics, vous sélectionnez l'endroit où vous vivez et vous découvrez plusieurs destinations pour un séjour au vert. Le petit plus, encore une fois, l'option 100 km à vol d'oiseau. Comme ça, aucun risque d'enfreindre la loi. Plusieurs offices de tourisme ont déjà rejoint l'initiative.
initiative. L'idée, c'est de donner envie de découvrir ou redécouvrir la France, peut-être avec un peu moins de temps que d'habitude et des budgets un peu plus serrés.
Mathieu Dugast, vous allez aussi, je crois, essayer de privatiser au maximum les lieux. Vous vous adaptez finalement et les hôtels qui sont avec vous vont rouvrir et vont s'adapter également.
Exactement. En fait, on travaille vraiment main dans la main avec les hôteliers depuis 2 mois, hein, depuis le confinement, pour essayer d'adapter notre offre. Alors, on va l'adapter de 3 manières différentes. La première, c'est qu'on va continuer à sélectionner des chambres encore plus incroyables, donc des chambres avec terrasse, avec balcon, avec jacuzzi privatif, avec des vues splendides, des suites XXL. Deuxièmement, on va de plus en plus miser sur le room service. On va vraiment essayer de créer une offre de room service magique, que ce soit côté
en partenariat food. D'ailleurs avec les restaurants qui pourraient entre-temps avoir procédé à la réouverture.
Tout à fait, oui. En fait, les hôteliers parisiens et même dans le reste de la France ont des relations très étroites avec leurs amis restaurateurs et on va aussi essayer de se connecter à leur offre, faire monter en fait en room service des plats gastronomiques sous cloche qui proviennent des restaurants d'à côté. Mais aussi, on va travailler à faire monter toutes autres choses comme des brunchs, des kits de mixologie pour réaliser soi-même ses cocktails. On va aussi miser sur le soin puisqu'on va proposer des rituels de bain directement en room service, des manucures, des massages. Et puis, le troisième adaptation, finalement, c'est sur la privatisation des espaces communs, donc les piscines, les spas, les jacuzzis, etc., que nos clients pourront profiter, en fait, toute une heure, juste pour eux, avec leur conjoint.
Finalement, Nicolas Sartorius, vous qui êtes le fondateur d'Abracadaroom, on s'aperçoit, quand on vous entend tous, hein, les uns les autres, que ce confinement, il nous a poussé à imaginer d'autres solutions.
Oui, c'est ça. Le confinement a été bénéfique. Les gens se tournent de plus en plus vers des hébergements qui sont isolés, en pleine nature, à la campagne, dans les milieux ruraux. Voilà, c'est idéal pour se ressourcer et en plus en toute sécurité parce que on se retrouve la plupart du temps dans des hébergements qui sont isolés les uns des autres, où on peut ne voir personne et passer un super séjour. Donc oui, exactement.
Oui, il faut l'aider ce secteur du tourisme parce que il est en grande difficulté en ce moment. Sophie, on peut regarder aussi du côté de l'État qui le soutient hein, d'ailleurs.
Oui, il y a déjà eu l'aide d'urgence de 18 milliards d'euros qui a été débloquée. Le gouvernement qui a dit vouloir accompagner à la fois la reprise puis la relance du secteur qui représente 7% du PIB français ainsi que 2 millions d'emplois. L'exécutif souhaite la réouverture d'un maximum de lieux touristiques le 21 juin pour lancer la saison. D'ailleurs, on devrait en savoir un petit peu plus sur le calendrier à partir de lundi. Le gouvernement qui insiste, ce sont bien les Français qui seront le moteur du redémarrage de l'économie touristique.
Merci messieurs d'avoir été avec nous. La France bouge continue dans un instant. À tout de suite sur Europe 1, 13h49. Vous êtes artisan, commerçant, patron de TPE, de PME, vous avez une difficulté, une question à poser. La France bouge vous aide. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure du coup de main de La France bouge pour vous aider à résoudre un problème ou à répondre à une question. Artisan, commerçant, patron de start-up, de TPE, de PME, écrivez-nous e1-lafrancebouge@europe1.fr et nous étudierons votre dossier. Il est entre de bonnes mains, celle de Nathalie Carré, chargée de mission entrepreneuriat CCI France. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Aujourd'hui c'est Mathieu Leroy qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Gérant de la société VIP Service à Paris. On parlait tourisme il y a quelques minutes. Hein. Vous avez créé depuis 25 ans une agence de guide touristique et accompagnateur pour faire découvrir Paris. Depuis mi-mars, tout est à l'arrêt. Or, vous êtes gérant majoritaire et vous n'avez aucune aide. Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui?
Alors, moi, en tant que gérant majoritaire, mon aide est très très réduite puisque je ne réussis à bénéficier que du fonds de solidarité de 1 500 € mensuels et même pas le premier mois, le mois de mars, parce qu'au mois de mars, j'ai réussi à travailler un petit peu avec la clientèle touristique qui restait encore et donc je n'étais qu'à 45% de baisse de chiffre d'affaires par rapport à mars 2019. Donc je n'étais pas éligible à l'aide de 1 500 €, ce qui est un petit peu quand même révoltant puisque on aide des gens qui sont à 50% et pas ceux qui sont à 45%. Il aurait fallu considérer que le tourisme était condamné une bonne fois pour toutes mars, avril, mai et puis aider tout le monde qui était dans ce secteur d'activité. Donc ce qui fait que mes employés guides, eux, sont quand même au chômage, donc ils sont mieux outils que moi. Moi, je me posais la question suivante, c'est cette aide de fonds de solidarité 1 500 €. J'ai entendu deux choses différentes, j'étais pas très bien sûr d'avoir compris. Si elle était prolongée jusqu'à septembre ou jusqu'à décembre, Première chose.
Oui.
Et deuxième chose, même si en décembre les frontières rouvrent à nouveau et que l'activité reprend, est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement? Parce que c'est une chose que les frontières ouvrent, que les avions volent à nouveau et que des touristes arrivent. Mais le délai de carence et de latence qu'il va y avoir, on ne le connaît pas. Ça va être 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc est-ce qu'il va y avoir des mesures d'accompagnement? Et dernière question, toute dernière, si je peux me permettre, j'ai fait le PGE, le prêt garanti par l'État, en urgence, parce que nous ne pouvons pas bénéficier de beaucoup d'aide, mais j'ai vu qu'au 14 mai, après le conseil interministériel pour prendre des mesures dédiées au tourisme, ils ont fait le PGE plus adapté à nous, qui s'appelle le PGE saison. Et donc je voulais savoir si le PGE version 1 était cumulable avec le PGE version 2, plus adapté à l'activité touristique.
Alors Nathalie, Nathalie qui arrive.
Nathalie.
Elle a toutes les réponses, Nathalie.
Alors, là, je te laisse.
C'est sympa, Ariane. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, dans le plan tourisme, alors les décrets sont pas encore passés, mais les mesures sont annoncées. Vous avez donc un fonds de solidarité qui est augmenté et dont vous allez pouvoir bénéficier pour les mois de avril, mai. On n'a pas encore les dates de fin. Vous avez une aide financière automatique également qui va vous être versée. Il y a une autre aide exceptionnelle que vous allez pouvoir solliciter. Il y a un dispositif, vous parliez de redémarrer, il y a un dispositif rebond pour soutenir en fonds propres donc, les entreprises de la filière. Il y a des exonérations de cotisations fiscales et sociales. Donc je vous rappelle que les autres ont eu un report. Donc pour le tourisme, c'est une exonération. Le recours au chômage partiel va être poursuivi au moins jusqu'à la fin de l'année. Vous allez sur plantourisme.fr, vous sélectionnez que vous êtes dans les activités touristiques et vous avez toute la liste. Donc, les décrets ne sont pas sortis, mais effectivement, c'est ce qui est annoncé. Et les décrets ne sont pas sortis. Pardon ?
Les formulaires ne sont pas encore prêts sur le site. Ouais.
Non, en fait, les décrets ne sont pas sortis, mais ça va arriver. C'est juste qu'ils sont en train de définir avec précision l'ensemble des activités qui peuvent y arriver pour être le plus extensif possible. Donc, il y a énormément de réunions en ce moment pour travailler sur le fait de justement laisser le moins de gens sur le côté.
Alors, j'en profite pour ajouter quelque chose, Nathalie, parce que ce matin, Bruno Le Maire était sur Europe 1. Il a répondu à certaines questions des auditeurs et il a laissé entendre à une auditrice qui appelait parce que son école de danse est fermée, que si effectivement l'école ne rouvrait pas, il y aurait probablement un maintien de l'aide de l'État. Donc c'est une piste qui reste à confirmer, mais c'est une piste tout de même.
Oui, clairement. Enfin, honnêtement, pour le coup, pour avoir travaillé main dans main avec le gouvernement, depuis le début, leur option, c'est on évite la casse au maximum, on essaye de laisser personne au bord de la route. Donc, effectivement, sur ce sujet du tourisme, vous l'avez dit tout à l'heure, les enjeux sont importants en termes de PIB, de nombre d'emplois. Donc, toutes les aides vont être maintenues, augmentées, etc. Et donc, oui, le PGE de saison est beaucoup plus intéressant que le PGE classique. Donc, c'est plutôt celui-là qu'il faut aller chercher. Maintenant, si on pense business, puisque vous venez de le dire à l'instant, Raphaël, les Français vont voyager en France.
Oui.
Vous avez un service un peu VIP, mais il y a aussi des Français. Je disais qu'en avril, les livrets A ont encore pris plus de 5 milliards d'euros. Mm-hmm. Donc, il y a des Français qui ont aussi des sous.
Non, mais...
Là, c'est vrai que vous avez un site internet en anglais. Enfin, vous êtes très tourné vers la clientèle internationale.
Extra-européenne. Nord-américaine, Moyen-Orient, Golfe. Donc, vous voyez, bon, c'est pas. Ça
Est-ce que vous pouvez réadapter justement votre service ou pas du tout, Mathieu?
Honnêtement, oui, mais ça va compenser quoi? 10% de ma perte, ça va être très très léger. Faut être conscient que je travaille, c'est 90 millions de touristes venus de l'étranger, donc et j'ai 5% d'une clientèle nationale, donc c'est pas ça qui va compenser les 90 millions qui ne viennent plus et qui m'inquiètent pour savoir quand est-ce qu'ils vont revenir. Vous comprenez, c'est très délicat. Donc le tourisme domestique, oui, il existe, mais je ne m'adresse pas du tout à eux, puisque nous, on fait des circuits avec des guides interprètes et accompagnateurs qui s'adressent vraiment à une clientèle ou asiatique ou nord-américaine ou du Golfe ou du Moyen-Orient. Donc
Mais l'idée, c'est d'éviter la saison blanche, puisque cette clientèle ne sera pas présente cet été, en tout cas. En revanche, il y a une grande campagne de communication qui sort sur voyager en France. Donc c'est vrai que si vos guides sont interprètes, ils parlent français. Peut-être qu'effectivement, aller draguer un peu nos Français qui ont les moyens et qui ne partiront donc pas à l'étranger cette année, pour faire découvrir Paris et éventuellement ses alentours. Oui. En tout cas, ça peut être une option qui vous permette, même si c'est un petit peu de sous, de vous faire rentrer un peu de sous. Il n'est pas exclu qu'on vous demande pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous allez aller chercher du PGE, par exemple.
Bien sûr.
Voilà.
Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je me bats contre les difficultés qu'on a connues après le 11 septembre 2001, après le gilet jaune, après les attentats terroristes, après les grèves. Donc, vous savez, ça me fait pas peur, moi, de me réinventer.
On l'entend.
D'aller chercher
Mathieu,
de la clientèle à droite à gauche.
On l'entend dans votre voix, votre détermination. Riyad, le mot de la fin.
Déjà, je vais quand même saluer l'expertise de la CCI et de Nathalie, là, parce qu'elle a quand même répondu sur tout. Bravo à toi, Nathalie. et puis ensuite, sur le fait, effectivement, je regardais aussi votre site. Effectivement, il va y avoir plus de du local maintenant, au moins jusqu'à la fin de l'année, peut-être pour prévoir l'avenir. Moi, j'insisterai un peu sur ce point, aller chercher de la clientèle, soit B2B d'entreprise, soit des, effectivement, des riches contribuables qui sont prêts à dépenser, à se faire guider dans Paris, à se faire expliquer des choses. Je pense qu'il y a un marché quand même et ça permettrait de prévoir l'avenir.
Ça ne sera pas l'idéal, Mathieu Leroy, évidemment, pour votre société VIP Service qui est à Paris, mais ça peut être effectivement un palliatif en attendant le retour de la clientèle étrangère, internationale. Merci à vous,
merci
Nathalie,
à vous
pour vos explications. On se retrouve dès lundi. Merci à Riyad Boulanoir qui a été avec nous toute cette semaine, notre coach. On était ravis de vous avoir
ça
à nos côtés.
C'était un vrai plaisir,
Riyad.
Raphaël.
Et merci, à Sophie Echen qui était avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
On vous accueille quand vous voulez, évidemment.
Avec plaisir.
On se retrouve évidemment dès lundi sur Europe 1.
Très bon week-end. À lundi. Bon week-end tout le monde.